Anthony Pastor, bonjour, très heureux de vous retrouver à la Foire du Livre. Dans le cadre de la sortie de votre dernière BD, Billy Lavigne, aux éditions Casterman. Alors, on passe du nord-ouest du Montana, neigeux, montagneux, glacial, au Texas avec ses plaines et son soleil torride. Vous avez eu froid?
Je pense qu'il faut alterner pour se donner envie. Moi, j'adore dessiner la neige, mais il faut aller voir un petit peu ailleurs pour avoir envie d'y retourner, parce que sinon on va se lasser. Après, c'est pas complètement l'opposé, c'est-à-dire c'est pas vraiment le désert Arizona où il transpire. J'ai gardé quand même quelques vestes, ils ont quand même quelques vestes molletonnées, on sent qu'il y a du vent, c'est une espèce de grande étendue. Je voulais pas que ça soit complètement l'inverse non plus, mais oui, j'avais envie de changer de paysage.
Est-ce que ce sont les histoires qui conditionnent les décors ou inversement?
C'est le tout en même temps, c'est-à-dire que très rapidement quand j'écris une histoire, à la fois je pense à mes personnages et ces personnages-là, ils sont tout de suite aussi dans un décor, c'est-à-dire tout ça se met en place. Ça ne fait qu'un en fait. Je raconte une histoire parce que je la raconte à cet endroit-là et pas ailleurs.
Alors donc Billy, votre héros, est poussé par un désir de liberté et en même temps empêtré dans la quête de ses origines. C'est une sorte de tragédie grecque en plein Far West.
Ouais, il y a un peu de ça, effectivement. Moi, j'aime bien aller sur des thèmes comme ça universels, on va dire les fondements un peu des grandes questions humaines, la filiation, ces choses sur lesquelles on a écrit depuis toujours et que la fiction tourne autour de ces grands thèmes-là depuis toujours. Donc effectivement, il y a toute la mythologie, les tragédies grecques. Et en fait, j'utilise le mythe de l'Ouest parce que en fait, cet endroit mythique avec le Far West et le mythe de la frontière, tout ça est pour moi un fondement de notre société actuelle. Donc finalement, c'est un peu aller aux fondations.
Alors, la justice divine, l'injustice sont des thèmes que vous avez déjà abordés précédemment. Vous avez une famille d'église ou une famille de juristes?
C'est peut-être un petit côté église. Non, j'ai pas dû qu'il y ait une famille. Chez moi, j'ai l'impression que des fois, on pourrait avoir tendance à me dire, mais tu serais pas un peu curé des fois? Non, mais dans ce côté, prêcher la bonne parole peut-être, ou chercher effectivement, ou dans le fait que je crois en l'amour et que je suis attaché à mon prochain et tout ça. Non, mais je pense que j'ai une histoire familiale qui est faite. J'ai été très tôt confronté à l'injustice du monde, je pense. D'une part, parce que j'ai un grand-oncle qui est allé dans les camps de concentration. Je pense que ça fait partie des choses qui m'ont marqué, puisque mon grand-oncle, très tôt, m'a pris à part dans une pièce, m'a montré des photos. D'ailleurs, j'ai vraiment du mal à... J'ai beaucoup lu sur la Shoah, mais il y a des photos que j'ai vraiment du mal à regarder, parce que je pense que mes parents ont pas dû se rendre compte qu'on me les avait montrés presque trop tôt. Ces tatouages, ce que mon père avait pu me dire, mon père est arrivé à 17 ans en France, donc il a vécu un début de vie pas forcément évident. Mes parents ont tous les deux perdu un de leurs parents assez tôt aussi. Enfin, je crois que très tôt j'ai eu conscience d'un peu de l'injustice du monde. Je pense un peu par ma vie. Donc, je crois que j'ai toujours été assez idéaliste.
Quelle est la place de la rédemption?
Eh bien, c'est peut-être ça, le côté un peu curé et le côté un peu justice, c'est de penser que peut-être il va y avoir une justice et que des choses vont être réparées. Et surtout, dans mes histoires, il y a des blessures, il y a de la fragilité, il y a l'injustice et il y a de l'espoir. En fait, moi, je suis vraiment pas quelqu'un de nihiliste, j'ai pas envie de faire des histoires qui arrivent dans des impasses sombres, négatives. Il y a toujours, je pense, vraiment la quête d'un monde meilleur, quoi. C'est-à-dire que je vais mettre en place des choses en posant cette question-là. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Comment les gens pourraient mieux s'entendre? Et voilà. Il y a quand même toujours un peu cet aspect espoir, donc rédemption derrière.
Ouais. Croyez à la fatalité?
Ben, je sais pas. Non, j'ai. Disons que je crois pas non plus dans le fait. Je crois pas complètement à la fatalité. Je crois pas non plus complètement dans le fait qu'on peut tout inverser ou qu'on veut tout gérer. Non, je veux dire, la vie, elle est vraiment complexe et il y a des fois où c'est vraiment, on a beau faire, des fois c'est vraiment plus dur, hein, et on maîtrise pas du tout. Je rebondirais là-dessus plutôt en disant que justement dans mes histoires, il y a souvent, la nature est très importante. Et elle est peut-être là à chaque fois pour nous ramener à notre petitesse.
Peut-être encore plus dans celui-ci, non?
Oui, sûrement, même s'il n'y a pas, il y a un orage, mais je veux dire, même si elle tue pas la nature ou elle va pas créer. Si, ah oui, il y a quand même, si, depuis le début, c'est vrai, il y a les histoires des inondations. Oui, c'est toujours présent chez moi parce que c'est une façon de justement montrer que, et c'est pas une fatalité non plus, c'est juste qu'il y a ces éléments qui sont là et ils sont plus forts que nous finalement. Mais moi je les vois plutôt comme positivement, il faudrait qu'on en prenne plus conscience en fait. Ça devrait nous aider à relativiser certaines choses et à être plus sage.
Alors, rien n'est jamais tout blanc ni tout noir. On n'aura pas de shérif avec une belle étoile rutilante ou un grand méchant borgne avec sa horde de chacals. C'est propre au western moderne, vous avez senti une évolution dans le genre?
Certainement. Je suis assez content sur Billy Lavigne parce que peut-être que dans La Femme et l'Étoile, il y avait beaucoup de personnages qui étaient quand même assez complexes, mais il y en avait certains qui étaient presque trop évidents. Enfin, un des méchants de La Femme et l'Étoile, bon, on dit lui, il est vraiment méchant, quoi. Enfin, je sais pas, il a vraiment, il était presque
typé, quoi.
Trop univoque, quoi. Donc peut-être un peu proche déjà de, enfin, assez classique finalement dans le western. On avait l'impression que ce personnage-là, on l'avait peut-être sûrement déjà vu. Dans Billy Lavigne, j'ai vraiment essayé de pousser ça, et notamment le personnage du capitaine, donc un des pères de Billy Lavigne. J'en suis assez content parce qu'il est vraiment particulier. Et c'est une psychologie qui effectivement, tu t'en fais pas le tour en deux secondes, quoi. Tu vois.
Non, c'est complexe, hein.
Et ça va laisser. Et puis ça laisse des portes ouvertes, tout ça. Et donc oui, ça me plaît. Ça me plaît parce que je trouve que ça ressemble plus à la vraie vie, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, j'accepte un territoire de fiction, d'imaginaire, de rêve, d'aventure, mais en ayant des personnages qui nous ressemblent vraiment, qui ressemblent à voilà, quelque chose de plus dense et plus complexe.
Alors, dans ce monde d'hommes, les femmes ont, semble-t-il, difficile à trouver leur place, mais elles restent quand même, certaines en tout cas, fortes, ou avec une force de l'intérieur, que ça soit la mère de Billy, que ça soit Sarah, la femme du colonel, que ça soit Charlotte, la petite amie du shérif, un peu comme vos autres personnages, Sally, Blanca, Pauline et Perla dans le dernier, non?
J'ai fait le choix, c'était un peu assez osé de moi qui est toujours dans toutes mes histoires quand même. Enfin, des héroïnes, on va dire, et des personnages qui sont vraiment au premier plan, hein, au niveau des femmes. J'avoue que Billy Lavigne, je fais le choix de me dire, là, le sujet, c'est vraiment la confrontation du fils et du père. Et j'ai fait avec le pour l'instant, de me dire, les femmes auront l'air d'être en second plan. Elles ont l'air d'être, elles ont l'air de, parce que, en fait, c'est en creux, c'est qu'effectivement, elles ont sûrement moins de scènes, elles sont là, mais elles donnent le ton. C'est parce que, malheureusement, la mère de Billy meurt, qu'il va se passer tout ce qui se passe, elle n'est plus là, mais lui, il continue à dialoguer avec elle. Elle est présente, elle donne le ton. Effectivement, il y a Sarah, la femme de l'éleveur, qui est là un peu tout le long comme un fil et qui donne le ton. En fait, elle donne le ton. Elle montre la voie à Billy quand même. Donc elles sont là vraiment encore comme des étoiles, comme la femme à l'étoile pour Zachary, mais elles sont là pour donner la voie, quoi, pour ouvrir la voie. Et donc elles sont vraiment au cœur de ce que je raconte dans le récit, même si elles semblent être juste derrière, un peu plus observatrice de ces, il y a une case comme ça où il y a Sarah qui se retourne et on voit Billy entre ses deux pères. Et donc, elle est un peu spectatrice de ça. Mais, donc, je joue le jeu. Justement, j'essaye pas, à tout prix. Des fois, aujourd'hui, on voit des films où les femmes sont peut-être très présentes et c'est très bien. Mais le discours est pas forcément pro-féministe ou elles ont pas forcément une place si importante que ça. Voilà.
Quelle est la place de la nudité dans votre travail? Comment l'abordez-vous? Pudeur, retenue ou sans phare?
Ah non, moi je suis très pudique. Hein.
Vous pouvez l'être sans pour autant que vos dessins y allaient.
Oui, mais je veux dire dans le dessin aussi, parce que en fait, quand je dessine, que je dessine de la violence ou si je dessine, j'essaye que rien ne soit gratuit. Okay, c'est-à-dire que je suis au service de mon histoire. Si dans cette histoire-là, il n'y a pas de besoin de nudité ou de scène de sexe, bah il y en a pas. Mmh. Je vais pas me dire il faut une scène comme ça. Voilà, ça marche pas comme ça chez moi. Donc
c'est pas dans le catalogue.
Hein. Voilà, là la seule nudité qu'on a, elle est masculine. Bon, elle est parce que à ce moment-là, c'est Bini qui se met à nu et c'est comme ça. Ça a du sens par rapport à mon histoire, mais c'est comme ça que je vais réfléchir. Il faut qu'il y ait du fond. Hein, c'est voilà.
Quand on lit votre BD, j'ai pas pu empêcher de penser à certaines références cinématographiques comme le capitaine Thorpe qui a un look à la Sam Elliott. Il y a le personnage de Claudia Cardinal dans Il était une fois dans Louis. Est-ce que le septième art vous inspire quand vous lancez dans une aventure?
Oui, bah enfin le septième art, il est
inconscient.
Ouais, presque. En fait, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il ressemble vraiment à Sam Elliott et pourtant je l'ai pas du tout regardé pendant tout le temps. Alors c'est comme quoi je dois être vraiment influencé. Non, je regardais faut dire que des grands moustachus au western, il y en a quand même pas mal. Mm.
Celui-là est typé quand même.
Et c'est vrai que sur certaines cases, c'est assez incroyable. Mais je dois dire que c'était pas spécialement lui que je regardais plus. Non, mais je regarde des comédiens, tout ça. Le cinéma, évidemment, il m'a nourri. Mon amour pour le western, il part au départ du cinéma, de la bande dessinée. Mais aujourd'hui, justement, j'élargis un peu ses références parce qu'en fait, ce que j'ai surtout fait dernièrement, c'est surtout lire du roman western plus que de re-regarder des films parce qu'en méfiant un peu des séries et des films parce que comme justement ayant l'image, peut-être.
Vous étiez un peu haché.
Oui, peut-être un peu déstabilisé par ça, alors que quand je lis un roman, c'est moi qui me fais
l'année.
Et en plus, ils sont tellement plus denses, ces romans-là, même en termes de documentaires, si je regarde même l'aspect documentaire, sur des petits détails, sur des petites choses, de vie réelle, de quotidien, qui fait qu'on part hors des clichés, quoi.
Au niveau des couleurs, vous aviez choisi la bichromie.
Ouais.
Pourquoi vous n'avez pas poursuivi dans cette voie?
Ben parce que ça me va très bien la bichromie, j'étais très à l'aise j'y ai pensé, je me suis dit, bon alors le prochain il est en rouge, le prochain il est en vert, après je fais sépia puis l'autre d'après je fais quoi, de chanvre. Ça va pas, ça a été quelque chose de c'était pas une série comme ça. Ça aurait été un peu fabriqué finalement et puis ça aurait été commencer à rester un peu sur mes acquis. Et là, moi, je venais de découvrir, c'était mon premier livre, Tout au pinceau, La femme à l'étoile. Je venais d'ouvrir une porte, en fait, hein. J'étais pas arrêté. J'ai adoré ce que j'ai fait sur La femme à l'étoile, ça fonctionnait. Mais je venais d'ouvrir une porte et il fallait que je continue à creuser. Et c'est vrai que le challenge pour un dessinateur d'aller mettre plus de couleurs, de partir de la polychromie, bah, ça n'a pas été simple. Ça a été de longs mois d'essais et de recherches. Mais une fois que j'y suis arrivé, c'est très très satisfaisant. Mais au départ, je voulais pas que ça soit gratuit. Alors, il fallait que ça devienne autre chose. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas juste rajouter de la couleur pour être un peu plus réaliste et tout ça. Là, c'était vraiment de se dire bon, je vais rajouter de la couleur, mais même dans le trait, je vais pousser. C'est-à-dire que ça va devenir plus pictural que La femme à l'étoile, hein, dans les ciels. Donc il y a ces références. Je suis allé voir plus de peintres, Van Gogh, etc. Je suis allé plus les regarder en me disant, oui, je vais mettre de la couleur, mais ça va être pour plus d'intensité, plus de sensations, plus d'émotions, etc. Pour aussi embarquer encore mieux le lecteur. C'est l'espoir qu'on a.
Le monde est une farce. En fait, rien n'a changé quand on voit Trump et Musk. Ouais. L'actualité, ça vous a inspiré?
Ah, moi, je suis complètement connecté. J'essaye que mon western, ça soit pas une histoire des États-Unis. Paradoxalement, Billy Lavigne est beaucoup plus documenté que La femme à l'étoile. Ah ouais. Oui, parce que Même l'éleveur, il est inspiré d'un personnage qui s'appelle Charles Boulknight, qui était un éleveur du Panhandle. Cette ville, elle existe, Clarendon. L'histoire qu'elle a été déménagée par le chemin de fer, c'est vrai. Tout est très historique, en fait. Mais c'est en second plan parce que je veux pas que ça prenne le pas et qu'on se dise, il me raconte un moment de l'histoire des États-Unis. Non. Moi, je me sers de ça pour sortir des clichés. Et après, l'idée, c'est que je sois connecté à ce qu'on vit aujourd'hui. Okay. Et j'utilise le western effectivement en mode tragédie grecque, comme un espèce de truc qui va à l'essence des sentiments, à l'essence de ce qu'on est. Et une des grandes questions, c'est interroger la masculinité. Et quand on voit le retour des Trump et des Musk et tout ça, on est complètement là-dedans. On est dans un moment où l'homme a cette espèce de peur là de ne plus être assez homme ou quoi, et donc on a un espèce de retour masculiniste hyper fort en disant comme si ils étaient eux-mêmes agressés ou mis en péril là ces espèces de, et donc on a une débauche comme ça de masculinité qui est extrêmement toxique, qui est la partie négative de tout ce que peut être l'homme, quoi. Mmh. C'est-à-dire la domination masculine, quoi, vraiment l'idée de domination. Et là, chez ces Trump et Poutine, c'est vraiment ça, c'est que tous leurs actes ont l'air d'être faits au détriment de quelqu'un. C'est-à-dire c'est annexé, c'est de la conquête, c'est que des choses en ça qui ont l'air d'être positives, quoi. Mmh. Toujours dans la contrainte, la conquête, voilà.
Alors, en ouverture, vous citez Dylan, All Along the Watchtower.
Ouais.
Je me suis rendu compte qu'à 6 mois après, donc en 68, Hendrix avait également chanté la chanson. Vous êtes plus Bob que Jimmy?
J'ai écouté les deux, en fait. Non, j'adore. La version de Hendrix est superbe. Parce que rien que le premier riff, tout de suite, il nous marque. Évidemment, moi j'aime les deux. Celle de Hendrix c'est plus rock, donc je l'écouterai à d'autres moments. Mais non, justement, je l'ai choisi parce qu'il y avait aussi la version de Jimi Hendrix. Donc j'étais en train de dire, il y a Bob Dylan.
Et le jumeau.
Voilà. Et celle-là, j'ai hésité longtemps entre différentes chansons de Bob Dylan et j'ai fini par choisir celle-là parce que justement il y avait Jimi Hendrix derrière aussi.
Anthony Pastor, un grand merci. Donc on rappelle Billy Lavin qui est sorti aux éditions Casterman. Merci.
Et voilà, tu vois.